En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Canal Académie vous propose d'écouter la retransmission de l'intervention d'Edith Parlier-Renaud de Paris 4 et de l'Institut National d'Histoire de l'Art. Sa communication s'intitule « La symbolique et la valeur émotive des couleurs dans les miniatures Razastani et Pahari ». Cette intervention s'inscrit dans le colloque « Voir et concevoir la couleur en Asie » organisé par l'Académie des inscriptions et belles-lettres en partenariat avec la Société asiatique et l'Institut national des langues et civilisations orientales. C'était le 11 et 12 janvier 2013.
Sur cette image consacrée à la fête bien connue de Holi qui a lieu au printemps et consiste, comme on sait, à s'asperger de poudre colorée, nous voyons qu'au fond, la couleur, c'est le rouge en Inde, même s'il peut s'y adjoindre, comme ici, un peu de jaune. Quand on regarde une grande partie des miniatures de l'Inde, et notamment les plus anciennes, on a bien l'impression que le rouge constitue le fond coloré de la vie, entre la lumière et l'obscurité, entre le noir de l'inconscience et le blanc de la pure conscience. Ainsi, dans les écoles de peinture indienne qui ont été le moins touchées par l'influence moghole et le naturalisme occidental qui se transmit à travers celles-ci, par exemple les écoles du Malwa en Inde centrale ou du Mewar au Rajasthan qui se développèrent au XVIIe siècle, on rencontre souvent un arrière-plan rouge placé derrière les personnages, comme si le rouge environnait naturellement les êtres animés, et particulièrement les humains, par opposition au règne végétal et minéral. Ce fond rouge se retrouve déjà dans les plus anciens manuscrits peints conservés en Inde, tels ce manuscrit Jain, ce Kalpasutra conservé au musée Guimet. La symbolique des trois couleurs indiennes est certainement très très ancienne, si on peut appeler couleur le noir et le blanc toutefois. Elle se dessine déjà dans l'une des plus anciennes Upanishads, dans la Chandogya. Je cite « L'aspect rouge du soleil est la manifestation de la chaleur, Tejas, le blanc de l'eau, le noir de la nourriture. Le noir est donc la couleur de la matière, de ce qui nourrit, mais aussi alourdi, le rouge du feu, de la chaleur, de l'énergie, le blanc de l'eau qui purifie, désaltère, apaise. La symbolique, encore très élémentaire, est pourtant déjà constituée. On trouve également une allusion beaucoup plus elliptique à ces trois couleurs primordiales dans la Shvetashvatara Upanishad, en 4-5. Je cite « L'unique femelle non-née, rouge, blanche et noire, qui met au monde de nombreuses créatures pareilles à elle. » D'où on peut supposer que ces trois teintes entrent dans la composition déjà de tout ce qui existe, de tous les êtres. Avec le Samkhya, je me permets de rappeler ici quelques données très connues. Les trois couleurs seront ensuite associées aux trois gunas, qualités, qui entrent en relation dans tout phénomène. Le blanc est rattaché au sattva, lumière, pureté, conscience. Le rouge au rajas, passion, action, vie. Le noir au tamas, inconscience, inertie, matière, puissance de destruction. Cela pourrait expliquer que le rouge serve de fond coloré dans une très grande partie des peintures de l'Inde exécutées dans un style local ou populaire, et particulièrement dans celles qui sont consacrées aux cycles épiques, tel ce rouleau peint de l'Inde occidentale dédié au Ramayana. Mais le rouge est aussi, sans doute encore aujourd'hui, la couleur probablement la plus portée par les femmes en Inde. Dans les miniatures, c'est la couleur du sari des déesses lorsqu'elles accompagnent leurs époux qui, eux, ont des vêtements de teintes diverses, mais vous voyez, chaque épouse, elle, a un sari rouge. Cet aspect féminin du rouge, indissociable de la vie, de la création, des valeurs, en somme, du rajas, explique, par exemple, l'aplat rouge sur lequel se profile ici la déesse Lakshmi. incarnation vraiment, on peut dire, de la féminité traditionnelle. Le vêtement décoloré de Shiva, ici, retrouve un rouge éclatant lorsque le dieu entre en contact avec la déesse et sa puissance créatrice en même temps que s'ouvrent ses yeux. La symbolique colorée des gunas est largement reprise dans les Puranas qui traitent de mythologie hindoue et justement développent ces scènes qui vont être si souvent représentées dans la peinture. On en retrouve la trace en particulier dans le costume et le teint respectivement attribués aux dieux, comme certainement Madame Filiosa nous le rappellera tout à l'heure. Selon des conventions auxquelles les miniatures de l'Inde, quelle que soit l'école à laquelle elles appartiennent, ont toujours été fidèles. Avec le teint blanc de Shiva contraste la peau sombre de Vishnu, qui devient ici d'un gris pâle dans cette miniature pahari, du style de Guler ou de Kangra, tout comme la peau de Parvati, épouse de Shiva, parfois appelée Kali la Noire. Mais comme on vient de le voir sur la miniature précédente à propos de Shiva, les vêtements des dieux jouent également un rôle important dans la définition de leur identité et de leur fonction. Le système des gunas exclut d'emblée la monochromie et repose sur des jeux de complémentarités et de contrastes dont les miniatures indiennes offrent de nombreux exemples. Ces oppositions nous rappellent l'ambivalence fondamentale des êtres et des choses. Par exemple, si les teintes sombres dominent dans cette représentation du dieu de la mort Yama, elles se détachent sur un lumineux fond jaune, complémentaire du bleu et du gris qui relèvent de la catégorie symbolique du noir. Le système des gunas suppose qu'en toute chose, les trois qualités entrent en proportion variable, mais aussi que l'une des trois l'emporte sur les autres. Nous rencontrons comme un écho de cette conception dans l'emploi que font de la couleur beaucoup de miniatures pahari. Ainsi, dans cette image des enfers, les plages de jaune et de blanc viennent rehausser les tonalités bleutées qui constituent l'essentiel de la palette. Même aux enfers, il existe certains degrés de lumière. Si cette conception de la couleur semble écarter d'emblée les œuvres monochromes, elle admet en revanche la nuance, comme nous pouvons le constater, sur cette représentation de la déesse Kali errant sur un terrain de crémation, mise en scène macabre du temps et de la mort, qui se décline du vert au noir en passant par le bleu, toutes ces teintes pouvant être considérées comme autant de variantes symboliques du noir, encore que l'évocation peut-être ultime de la destruction exclut toute couleur, comme on le voit sur cette image où le papier est aussi nu que la déesse. Les textes spécifiquement consacrés aux arts plastiques, Shilpa Shastra ou Vishnu Dharmotara, ont élargi la palette indienne en définissant cinq couleurs dites primaires. Le Vishnu Dharmotara, au chapitre 27, distingue ainsi le blanc, Shveta, le rouge, Rakta, le jaune, Pitta, le noir, Krishna, le vert, Harit. Dans un autre passage du même ouvrage, au chapitre 40, le vert est remplacé par le bleu, signe sans doute de la proximité à la fois chromatique et symbolique des deux tons. Le Vishnu Dharmotara ajoute qu'il serait impossible d'énumérer toutes les couleurs produites par le mélange de deux ou trois de ces teintes entre elles, annonçant, légitimement peut-être même, la multiplicité illimitée des couleurs que nous trouverons dans la peinture indienne. Précisons tout de suite qu'une très grande partie, que sans doute la plus grande partie des miniatures de l'Inde, juxtaposeront les couleurs dites primaires dans les costumes des personnages ou dans les fonds contrastés sur lesquels ils se détachent, sans que l'on puisse pour autant leur attribuer une signification bien spécifique. L'alternance des couleurs est tout au plus signe de la diversité des êtres et des états, parmi lesquels elle introduit un ordre visible, comme sur cette miniature du Malwa en Inde centrale, où les couleurs permettent surtout de bien différencier les personnages et les composantes de la scène. Sur celle-ci, les figures se confondraient. Si le ton de leurs vêtements ne permettait de distinguer entre elles, et notamment entre les quatre frères héros du Ramayana, tous semblables si l'on n'avait pas les couleurs pour les identifier. Et pourtant, un certain nombre de miniatures, surtout des miniatures pahari, c'est-à-dire montagnardes, qu'on appelle le Pahari parce qu'elle fut réalisée dans les principautés établies sur les contreforts de l'Himalaya, et aussi certaines miniatures du Rajasthan, semblent bien faire écho au fameux passage, souvent cité par les historiens de l'art indien, qui se trouve au chapitre 6 du Natyashastra, le traité des arts de la scène, le traité, on pourrait dire, des arts en général, ce passage attribue aux couleurs une valeur émotive précise. Le Natyashastra commence par élargir la palette indienne, on pourrait dire, pour l'adapter au nombre des émotions fondamentales, les 8 rasas, au blanc, Shweta, au rouge, Rakta, au noir, Krishna, donc au bleu, Nila, au jaune, Pitta, des traités de peinture. Il ajoute 3 autres couleurs, en fait, assez indéfinies, si l'on s'en remet aux termes utilisés pour les qualifier. La couleur Gaura, alors Gaura signifie plutôt clair, et on peut le traduire par doré, par jaunâtre, voire par blanc. La couleur Kapota, littéralement la couleur pigeon. La couleur, enfin, Shyama. Shyama signifiant surtout sombre. Quoique le terme, en particulier dans les traductions du Natyashastra disponible, soit souvent traduit par vert. À chacune de ces couleurs, le Natyashastra relie un état émotif, un rasa, une saveur particulière. Le sentiment amoureux, Shringara, est associé à la couleur sombre ou verte, selon la traduction que l'on adoptera de l'adjectif Shyama. Le sentiment comique, Hasya, au blanc. Le pathétique, Karuna, à la couleur du pigeon, qu'on peut supposer grise ou tirant sur le mauve, voire sur le brun. La colère, Raudra, au rouge. Le sentiment héroïque, Vira, à la teinte claire ou dorée, au Gaura, justement. La crainte au noir, le dégoût au bleu, le sentiment du merveilleux, Adbhuta, est lié au jaune. Le Natyashastra distingue en outre 4 rasas primaires, l'amour, la colère, l'héroïsme, la peur. Et 4 rasas secondaires qui dérivent des 4 primaires. Ainsi, le rasa amoureux donne le rasa comique Hasya. Le rasa du pathétique ou de la pitié dérive du rasa de la colère. Celui de l'émerveillement découle du rasa héroïque. Celui du dégoût est engendré par la crainte. Cette parenté des rasas est parfois indiquée par leur proximité chromatique, mais pas toujours. La valeur émotive des couleurs se rattache partiellement, semble-t-il, à la symbolique des gunas. Ainsi, le noir et sa variante le bleu renvoient-ils à la peur et au dégoût que peuvent susciter les valeurs tamasiques de destruction et d'inconscience. Les bleus ou les noirs, qui dominent dans les scènes macabres où intervient Kali, revêtent donc une valeur à la fois symbolique et émotive. Ici, c'est le noir bleu de la destruction, mais ça peut aussi être, bien sûr, le noir de la peur et le bleu du dégoût. Le noir est parfois utilisé dans les scènes de guerre ou de chaos, ainsi dans cette miniature du Mewar tirée d'un Ramayana. Le vert paisible qui sert d'arrière-plan à l'ermitage de l'ascète Vasishta contraste avec le noir sur lequel se découpent les scènes de chaos provoquées par l'enlèvement de la vache. Le noir est utilisé comme fond pour l'épisode tragique de l'agonie de l'oiseau Jatayu. voire pour une scène de combat du Ramayana. Dans cette série du Malva, le noir peut évoquer aussi bien l'angoisse de l'héroïne abandonnée, c'est Sita, abandonnée, qui vient d'être abandonnée par Lakshmana sur l'ordre de Rama, que donc ce noir peut évoquer les sentiments de l'héroïne ou le malheur et la mort qui la menace, tandis que l'espace est habité où Rama poursuit une existence plus protégée et symbolisée par le rouge de la vie. Sur une autre miniature de la même série, le combat fait rage sur un arrière-plan bleu sombre, tandis que Sita, cette fois-ci, est isolée du chaos environnant par le fond écarlate sur lequel elle se détache. Le champ sémantique du rouge se réduit cependant dans le Natya Shastra, alors que dans le schéma des gunas, il connote de façon générale la vie, la création, la passion, l'action. Il devient couleur de la colère, plus exactement du terrible Raudra. Dans un grand nombre d'écoles de miniature indienne, notamment dans cette école du Malva, le rouge ne saurait se réduire sans contresens à cette signification. Néanmoins, dans certains cas, il semble bien associé plus spécifiquement à la colère. C'est le cas, par exemple, dans ce Bhagavata Purana Pahari, qui utilise exclusivement un fond rouge pour les scènes de guerre. La même teinte est sans doute aussi choisie à dessein pour suggérer la colère de la démone Shurpanakha qui vient se plaindre à son frère Ravana, tout auréolé de la couleur terrible sur cette autre peinture Pahari. Le pourpre rudraïque du ciel, donc ce pourpre Raudra, convient particulièrement au couple Shivaite. Rappelons que le rasa Raudra dérive du nom de Shiva, Rudra. De même, le couchant orangé est un décor tout adapté pour les exploits sanglants de l'irascible Parashurama. On perçoit aussi la continuité qui peut exister entre la catégorie symbolique du sattva et les valeurs émotives qui s'attachent au blanc ou au jaune. Le sens comique pourrait renvoyer à l'éclat de rire libérateur de la divinité, le rire de la déesse Durga avant un combat dont elle connaît d'avance l'issue favorable, ou le rire éclatant de blancheur de Shiva, si souvent évoqué dans la poésie sanskrite. Hasard ou intention délibérée dans les scènes de réjouissance, par exemple cette représentation de la fête de Holi, ou celle-ci, ou cette image de la fête des Lumières, Diwali, le marbre des terrasses de palais fournit aux miniatures Pahari une dominante blanche. Comme aussi dans cette miniature de Bundi, au Rajasthan, où l'héroïne s'amuse à imiter le divin joueur de flûte Krishna, miniature qui rejoint ainsi la définition que le Natya Shastra donne du comique comme satire et notamment imitation du sentiment amoureux. Par sa luminosité, le jaune est proche du blanc, le sentiment du merveilleux, Adbhuta, le rasa Adbhuta, pourrait bien être aussi une émotion sattvique qui se rattacherait au guna de la pureté de la conscience. C'est l'émerveillement que suscite par exemple la descente du Gange, tombant du chignon de Shiva, ou la mise à mort du géant Kumbhakarna dans le Ramayana. Le Natya Shastra, on l'a vu, fait naître le rasa de l'émerveillement, du rasa héroïque, et leurs couleurs, le jaune et la couleur claire, le pitta et le gaura, se confondent quelque peu. Dans plusieurs séries de miniatures Pahari, le jaune est invariablement utilisé comme fond coloré pour les exploits des héros, qu'il s'agisse de l'avatar du sanglier qui soulève la terre, qu'il vient de tirer du fond de l'océan, de Krishna détrônant Kamsa, ou de Rama affrontant les démons. Là, peu de nuances, tout exploit suscite le même étonnement. Avec le sentiment amoureux et le pathétique, Sringara et Karuna, dont le Natya Shastra signale aussi la proximité, notamment dans les situations de l'amour en séparation, on entre dans un domaine plus indécis, plus flottant. L'imprécision des termes, couleur sombre et couleur pigeon, recouvre la complexité d'émotions ambivalentes où se mêlent joie et mélancolie, nostalgie et plaisir. Sans doute n'est-ce pas par hasard que le Natya Shastra attribue à l'amour et à la compassion des couleurs aussi incertaines. L'émotion amoureuse est couleur du temps, couleur de la mousson, sombre comme un ciel d'orage, ou verte comme la végétation à cette période de l'année. La divinité qui y préside, puisque chaque rasa est aussi présidée par une divinité, donc la divinité qui préside au rasa de l'amour est Vishnu, dont le teint bleu revêt ici un nouveau sens, obscur comme la nuit propice aux rencontres, où l'héroïne va attendre ou rejoindre son amant, dont nous avons donc beaucoup d'exemples, par exemple cette Abhisarika Nayika qui brave les dangers de la nuit pour retrouver celui qu'elle aime. Ou cette femme qui attend son compagnon dans la forêt obscure. Obscur aussi, donc le rasa de l'amour est obscur aussi, comme les ciels de pluie qui éveillent la passion. L'attente amoureuse de l'héroïne solitaire peut être évoquée alternativement par un fond vert ou gris. Convention qui semble avoir aussi gagné la peinture moghole du XVIIIe siècle. Fort influencée sans doute par les écoles du Rajasthan. Les deux teintes enfin se mêlent dans cette miniature pahari où le vêtement de la femme est en outre couleur du paysage. Le sari gris mauve porté par ce personnage féminin qui, dans un geste de dépit amoureux, se sépare de ses bijoux, pourrait évoquer le rasa pathétique, le rasa karuna, qui découle selon le Natya Shastra de la colère, comme le rappelle peut-être la nuance rosée du gris. Une couleur voisine est utilisée comme fond derrière le couple de Dasaratha et Kausalya qui assistent désolés au départ de leurs enfants pour la forêt. Tandis que le gris plus terne, qui sert de fond à Sita emprisonnée, semble signaler derrière la dignité un peu raide de l'attitude, la tristesse intérieure. Dans cette miniature qui évoque la mélancolie de Krishna tourmenté par l'amour, gris et mauve dominent, relevés cependant par la touche de rouge sur laquelle se découpe la tête du héros. On se gardera cependant d'appliquer de façon trop littérale la théorie des rasas au ton des miniatures, d'abord parce que les couleurs mêmes, comme nous l'avons vu, sont foncièrement ambivalentes. Le blanc associé au rire et donc à la joie dans le Natya Shastra, aux valeurs de pureté et de conscience dans le système des gunas, est aussi lié, chacun le sait, au deuil en Inde, comme nous le voyons sur cette image des funérailles de Dasharatha, père de Rama. Le rouge de la vie et de la création est aussi couleur de la colère et du conflit. Le bleu noir et ses variantes associées à la crainte, au dégoût ou à la destruction le sont aussi à l'amour. La couleur, en somme, est aussi complexe et changeante que le sont nos émotions. Je vous remercie.
Bien, nous vous remercions d'avoir su nous dévoiler le langage de ces splendides miniatures et nous exprimer, exercer notre œil, je veux dire, à découvrir les tonalités émotives de ces couleurs avec leurs ambivalences. Alors, comme vous avez été très ponctuel, je pense qu'il y a le temps pour une ou deux questions. Qui souhaite poser une question ? Monsieur Filosa, peut-être, quand même.
Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir montré de si belles et de si beaux exemples des écoles de miniature du nord de l'Inde qui sont extrêmement riches et qui déploient une très grande richesse de couleurs. Alors, vous avez beaucoup parlé de la symbolique et des sources littéraires ou théoriques. Depuis la théorie des trois gunas, la base philosophique de la conception des couleurs, qui, je crois, n'est pas tellement appliquée et n'a pas beaucoup d'application dans la peinture. Pratiquement, un peintre ne pourrait pas faire grand-chose s'il n'avait que du blanc, du rouge et du noir, tels qu'on les définit. Alors, heureusement, la couleur Krishna, Nila, Shyama, c'est très fluctuant, ça donne beaucoup de possibilités aux artistes. Je crois que les artistes ont joué un très grand rôle. Et dans la diversité des fonds, évidemment, le fond rouge est bien caractéristique de l'époque la plus ancienne, mais les artistes ne pouvaient pas toujours rester au fond rouge, et ils ont beaucoup joué pour faire contraster les couleurs et pour la beauté de leur chef-d'œuvre. Je crois que la part de l'artiste nous éloigne souvent, la part du peintre nous éloigne souvent de la littérature, et c'est souvent assez difficile de faire rejoindre les deux. Mais je vous remercie quand même d'avoir montré quelques pistes éclairantes et d'avoir justement utilisé le Natya Shastra abondamment. Natya Shastra, il a son application dans les costumes du théâtre. Là, c'est beaucoup mieux codifié. Où les peintres ont-ils cherché leur inspiration philosophique ou littéraire? Là, c'est souvent difficile de le préciser. Mais je vous remercie beaucoup.
Merci.
Vous souhaitez dire quelques mots, madame?
Non, je me demandais s'il ne s'agissait pas tout de même de notions qui sont tellement dont les sensibilités sont tellement imprégnées en Inde qu'elles ont pu toucher quand même l'individualité de chaque peintre dans une certaine mesure. Voilà.
Vous venez d'entendre la communication d'Edith Parlier-Renaud intitulée « La symbolique et la valeur émotive des couleurs dans les miniatures Rajasthani et Pahari » dans le cadre du colloque de l'Académie des inscriptions et belles-lettres « Voir et concevoir la couleur en Asie » qui s'est déroulé en janvier 2013. Retrouvez la suite des interventions de ce colloque sur Canal Académie.